Et oui, une chanson qui convient bien avec cette entrevue avec Carl Nadeau. Carl Nadeau qui connaît les voitures, qui connaît la conduite et puis qui connaît l'hiver, j'imagine bien. Bonjour, Monsieur Nadeau.
Bonjour, justement, c'est l'hiver ici. Là. Je suis au chalet, il neige énormément.
Ah oui, vous êtes chanceux parce qu'à Montréal et dans la grande région métropolitaine, la neige est transformée assez vite, merci, en pluie. Mais il faut quand même pas vivre dans le déni parce qu'on a les deux pieds dedans, là, même si l'hiver arrive officiellement le 21 décembre. Alors, on a décidé de vous inviter, vous qui êtes un spécialiste de la conduite, expert en conduite Michelin, instructeur de conduite, pilote de course professionnel. Bref, les voitures, ça vous connaît. Vous avez une...
Et ça me passionne.
Oui, ça paraît aussi. Vous animez des émissions de télé sur le monde de l'automobile, de la conduite. Vous aimez la vitesse aussi?
Sur piste, oui. Sur piste, c'est l'avantage de la cinquantaine. On est plus mature.
Oui, parce que vous trouvez que ça prend de la maturité pour être un automobiliste ou peut-être pour être un coureur automobiliste, je ne sais pas.
Ben, dans les deux cas, oui, parce que sur une piste, les gens pensent souvent que c'est celui qui est le plus longtemps sur l'accélérateur qui gagne, alors que c'est souvent le pilote le plus intelligent qui va gagner une piste,
Oui.
qui sait où ralentir, où gérer, comment planifier ses dépassements. C'est extrêmement mental, le sport auto.
Et vous avez appris à conduire quand et où, Carnado?
Ben, ça a commencé au chalet sur des VTT très, très, très jeunes. Fait que j'ai toujours eu cette passion-là. Je voulais faire du sport automobile très jeune, mais mes parents étaient assez contre l'idée. Donc, j'ai commencé le sport auto à 19 ans, mais bien sûr, à 15 ans, je travaillais pour payer ma première voiture à 16 ans, puis ça pressait, là.
Ça pressait et ça presse toujours.
Oui.
Alors, sur la route, là, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous observez chez les automobilistes?
Il y en a énormément, mais souvent, c'est le manque de planification, le manque de douceur, le manque de courtoisie, puis je m'explique. La plupart des gens vont conduire en regardant très près de l'avant de leur véhicule, et ça, malheureusement, ça fait que le peu d'informations qu'ils ont, ils l'ont à la dernière minute. Le cerveau n'a presque pas le temps d'analyser cette information-là, et le corps n'a souvent pas le temps de réagir. Donc, plus on relève les yeux, plus on regarde loin, plus l'information, on dirait que va nous arriver au ralenti, puis on a le temps vraiment là, de bien faire. Et malheureusement, bon, j'ai eu la cinquantaine cette année, je me rends compte que mon acuité visuelle a un petit peu baissé, ma vision le soir un peu baissée, les réflexes sont moins parfaits qu'ils étaient au début de la vingtaine. Donc, c'est d'autant plus important à ce moment-là de regarder encore plus loin et de s'assurer d'être en bonne position de réagir. Et ça passe aussi par une excellente position de conduite, ce qui est extrêmement négligé sur nos routes.
Ah oui, hein, le non-respect des distances de freinage. Là, on essaie de le faire, mais il y a tout le temps une voiture qui s'en vient entre les deux voitures.
Oui, c'est vrai que les ouvertures se referment assez rapidement. Et d'ailleurs, j'en reviens pas à quel point, entre autres, moi je demeure à Boucherville, donc je conduis régulièrement à Montréal. On dirait que mettre un clignotant, c'est une incitation à ce que les gens referment l'espace.
C'est vrai,
Alors qu'on a
hein?
la courtoisie de le mettre, on a la courtoisie d'avertir les autres automobilistes autour qu'on va faire une manœuvre. La moindre des choses, c'est de laisser faire cette manœuvre-là. Donc, je trouve ça un peu aberrant que les gens aient ce mauvais réflexe-là.
Oui, c'est la base, me semble, du savoir-vivre ensemble, mais on dirait que ça entre pas dans les têtes de plusieurs automobilistes.
Non, malheureusement. Mais il y a des choses que nous, on peut faire parce que c'est sûr qu'on est en contrôle de notre propre véhicule. On ne peut pas contrôler les réactions des autres autour.
Ouais.
Mais je parlais brièvement d'une excellente position de conduite. Et ça, c'est négligé parce que souvent, plus ça fait d'années qu'on conduit, plus on va tomber dans le confort. Donc, notre siège va être un petit peu trop reculé, le dossier trop penché, on va avoir une main sur le volant. Et ça, c'est quelque chose qu'à tous les jours, on doit se parler puis d'avoir la bonne position. Ça commence par avancer suffisamment le siège pour qu'en freinage extrêmement intense, on freine toujours avec les muscles de la cuisse et que notre jambe soit jamais en pleine extension. La deuxième étape, c'est de relever le dossier pour qu'en position de conduite parfaite, les mains à 9 h, 3 h, on ait à peu près 45 degrés d'angle dans nos bras. Et bien sûr, on regarde loin. Ça prend les mains à 9 h, 3 h, mais quand on tourne, on devrait toujours tirer sur le volant avec la main qui est à l'intérieur du virage. Et l'hiver, c'est d'autant plus important de tirer parce que ça amène de la douceur. Tandis que quand on pousse avec l'autre main, ça donne un coup. Et quand les conditions sont glissantes, ça peut facilement déstabiliser l'auto. Fait que ça, c'est des petits détails, mais qu'on doit se parler régulièrement. Et un détail de sécurité que je ne dirai jamais assez, nos épaules doivent toujours être bien en appui sur le banc. Et quand l'hiver, la visibilité
sur le dossier?
Baisse, oui, toujours les épaules devraient être 100% à côté sur le dossier, parce que ce que ça fait, c'est que notre corps, nos fesses sont soutenues par le banc, nos épaules sont soutenues par le siège, notre pied gauche devrait toujours être sur le repose-pied qui est du côté gauche, toujours au plancher du véhicule. Ça stabilise tout notre corps, ce qui fait que nos mains, on n'est plus obligé de se pendre après le volant pour être maintenu en place. Donc, on tombe avec beaucoup de précision, avec les doigts sur le volant, avec énormément de douceur. Et cette douceur-là est extrêmement importante en hiver.
On pense pas nécessairement à ça. Hein. On tient ça pour acquis, puis on est moins vigilant. Et pourtant, dès qu'on entre dans une voiture, on est responsable de sa vie et de la vie des autres. Mon père me le dit souvent. Et à l'hiver, là, l'hiver qui est là ou pratiquement arrivé, à part les changements de pneus, on y reviendra un peu plus tard, mais quels sont les autres changements, les ajustements, là? À quoi il faut penser? Qu'est-ce qu'il faut mettre dans sa voiture? Qu'est-ce qu'il faut faire là, pour être bien prêt?
C'est un bon point de parler de la préparation de l'auto. Les choses que les gens négligent souvent jusqu'à ce qu'il en manque, c'est du fameux liquide lave-glace, s'assurer d'avoir du moins 45 dans l'auto.
Oui, pas d'eau, hein?
Non.
Ça gêne.
Ou l'éternel problème, on en achète l'été avec des additifs pour enlever les mouches plus facilement, des trucs comme ça.
Oui.
C'est absolument incapable de résister au froid dans la plupart des cas. Donc, on s'assure au moins là, d'en mettre suffisamment de lave-glace d'hiver pour compenser ça.
À moins 45.
Ouais, au moins du moins 45, mais des fois, on envoie en spécial vraiment pas cher du moins 30. À la minute qu'il fait une température un peu plus froide et que vous êtes sur l'autoroute avec le facteur vent, on dirait que ça glace. Là,
OK, prise, on prend des notes. Parfait.
Oui, ça, c'est très important. Moi, j'aime bien avoir un petit survolteur portatif, ce qu'on appelait un booster pack dans le temps, ou des câbles de survoltage.
Il y en a qui appellent ça encore comme ça.
Oui. J'essaie bien fort de franciser.
Oui, c'est bien.
Les gens me regardent en se disant, ben, coudonc, je comprends pas ce qu'ils disent.
De quoi ils parlent?
Un survolteur. Ouais. Maintenant, c'est des petites batteries au lithium. On met ça dans le coffre à gants. C'est vraiment tout petit. On s'assure de le sortir, de le charger une fois de temps en temps dans la maison, mm-hmm. que la batterie soit pleine charge. On est capable d'opérer ça facilement tout seul. Il y a souvent, là, si on se trompe de côté du positif, négatif, le survolteur se mettra pas en fonction. Il va détecter ça. Donc, c'est très, très sécuritaire. Puis, bon, si on est pris avec une batterie à terre parce qu'on a notre porte était mal fermée ou il y avait une petite lumière d'allumée dans le véhicule, on peut facilement se dépanner. Balais à neige, moi, j'aime bien les très longs balais. Là. Ceux qui vendent souvent pour les camionnettes, ben des fois... On a mal au dos un peu, on est fatigué, il y a de la glace au sol, on veut pas tomber sur le dos. Un bon grand balai, c'est parfait pour déneiger l'auto.
Oui, c'est pas trop lourd pour les personnes âgées, c'est pas trop lourd ce genre d'instrument-là?
Traditionnellement, il était en gros bois, extrêmement pesant, mais aujourd'hui, il y a des balais qui sont très, très légers, okay. Puis même des balais là, qui vont se déplier pour avoir plus de surface. C'est fabuleux, j'en ai toujours, puis ça coûte pas une fortune, c'est très pratique. Il faut s'assurer que le grattoir de glace soit en bon état. Donc, ça peut aider. Puis, bien sûr, si on a le choix entre gratter le milieu de la vitre arrière qui est gelée avec un petit balai qui a un pied de long ou avoir un grand balai de trois pieds, je peux vous dire qu'on va avoir moins mal au dos avec celui qui a trois pieds.
Bon, on va en demander un au Père Noël cette année. Et puis, il y a d'autres choses. Là, il y a aussi des fusées éclairantes. On trouve ça où, ça, des fusées éclairantes?
Ben souvent, dans les grandes surfaces, ils vont vendre ça, là, les Canadian Tire et autres, là, sans leur faire de publicité.
C'est vraiment nécessaire?
On va être capable d'avoir ça. Moi, personnellement, j'en ai jamais dans mon véhicule. Il y a des gens qui apprécient avoir ça. C'est vrai que ça peut être pratique en cas d'incident, mais moi, je suis un fan là, d'utiliser les feux de hasard sur le véhicule s'il y a une panne ou quoi que ce soit, mm-hmm. ou même... Ça, c'est quelque chose que la plupart des conducteurs, si on leur demande, on s'assoit dans leur véhicule, on leur demande « fermez vos yeux ». Actionner vos feux de hasard, il n'y a pas 1% de la population qui va être capable de le faire. Et moi, je pense que c'est essentiel de les localiser et d'avoir le réflexe naturel de les utiliser pour une raison bien simple. Vous circulez sur l'autoroute ou dans un chemin de campagne, vous voyez un orignal en fait traverser, votre premier réflexe devrait être immédiatement de sauter sur les freins et de ralentir pendant que vous êtes capable et non d'attendre à la dernière seconde, vous dire « Oh! » Il est encore dans le chemin, je dois réagir.
Ouais.
J'aime bien mieux dans une zone de 100, ralentir à 30, puis réagir à 30 qu'à 100. Mais si j'ai un freinage brusque à faire, mon premier réflexe, moi, c'est immédiatement en freinant d'actionner mes feux de hasard pour avertir les conducteurs derrière qu'il se passe quelque chose de majeur.
C'est très bon comme conseil. Carl Nadeau, le temps file. Je pense qu'il va falloir vous réinviter, mais j'aimerais ça quand même parce que vous avez parlé de freinage. Le freinage l'hiver, on a appris beaucoup, en tout cas, que c'était bon de pomper pour freiner, mais c'est quelque chose qu'il faut oublier, là. C'est que vous proscrivez.
Proscrire à 100%. Le problème, c'est que pomper les freins, ça n'a jamais été bon, même dans les bons vieux temps où est-ce que les voitures n'avaient pas d'ABS. Parce que toutes les fois où est-ce qu'on relâche la pédale pour pomper, le poids va se retransférer vers l'arrière du véhicule, l'avant va se soulager, et pour avoir du freinage, on veut du poids appliqué sur les roues avant. Donc, avec une voiture pas d'ABS, on va faire ce qu'on appelle un freinage au seuil. Donc, on va freiner avec beaucoup de douceur. Imaginez comme si la pédale était fragile pour aller en douceur et s'assurer de maximiser le freinage sans bloquer les roues. Mm-hmm. Et heureusement, avec une voiture moderne, avec l'ABS, on enfonce la pédale le plus possible. On laisse le système ABS travailler qui va débarrer et barrer les roues extrêmement rapidement, des milliers de fois là, à la minute. Donc ça va faire le travail. Mais par contre, c'est important, le maximum de freinage, on le fait en ligne droite. Et souvent, si j'ai un gros freinage à faire et que je ne peux pas le compléter avant d'arriver à l'obstacle, je vais légèrement soulager ma pédale de frein avant de commencer à faire l'évitement.
Alors, c'était trop intéressant. Si les gens veulent vous suivre, on peut aller sur l'Académie de conduite hivernale en ligne?
Oui, sur le site de Michelin, on a fait énormément de vidéos pour aider les gens, entre autres avec les voitures électriques, parce que pour beaucoup, c'est nouveau, c'est leur première expérience hivernale. Donc, on a plusieurs vidéos, entre autres, pour expliquer la régénération au freinage, à quel point ça peut affecter l'équilibre du véhicule, des trucs comme ça.
C'est parfait.
Donc, on a vraiment mis le paquet pour faire des vidéos importantes pour la sécurité.
Alors, j'invite les gens à les découvrir sur michelin.ca. Et moi, je vous invite pour la deuxième partie de cette entrevue. J'avais à peu près 20 questions pour vous.
Ça va me faire plaisir.
Super. Alors, bonne journée au chalet, puis à la prochaine, Carl Nadeau.
À la prochaine.
Merci. Bye.